Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
In the car, slammed on the gas. Got to get away from here fast. The enemy's breathing down my neck, trying to grab a hold and make me wreck. Hot on my tail, trying to make me feel. Trying to take the wind up out of my sail. Trying to roll me off this road.
Morning, when it's midnight, going out of my head alone in this bed. Jetlag sur Phare FM, Simple Plan avec Mary May. Jetlag, décalage horaire, eh bien non, pas de décalage horaire, il est 4h03 et c'est effectivement Phare FM qui vous accompagne. On est le vendredi, on est 13 juin. En espérant que ça va, je vous souhaite un beau réveil et une excellente journée et vous propose de poursuivre notre programme toujours dans la nuit autrement. Et c'est jusqu'à 5h. On va retrouver Pain de Vie tout à l'heure avec Claude Gréder et tout de suite on écoute Benson Boone et la chanson I'm Sorry, I'm Here for Someone Else. À tout à l'heure.
Minuit 5h.
La nuit autrement
avec Mireille.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner, south side of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized, 'cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope you do. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
What happened next?
When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it.
But by ourselves, but I'm here for someone else.
Place maintenant votre message Pain de Vie avec le pasteur Claude Gréder.
Je vous invite à prendre vos Bibles et on l'ouvre dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, il lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Mais si tu es fils de Dieu, allez, jette-toi en bas. » Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ou tu ne provoqueras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosterne devant moi et m'adore. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et on remarquera au passage, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ce texte a été médité moult fois. Je voudrais m'arrêter sur la troisième tentation et sur cette pensée provocatrice que le diable adresse à Jésus en lui disant « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » On citera ce texte que Jésus adresse à la Samaritaine après leur discussion théologique. Il dit « Mais ce que le Père demande, ce que le Père souhaite, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. » Quelque part, j'ai l'impression que ce texte de la tentation de Jésus culmine avec l'enjeu ultime, qui est de savoir qui est-ce qu'on adore. Dieu cherche notre adoration à nous, mais le diable aussi cherche notre adoration à nous. Là, c'est Jésus, le Dieu fait homme, qui est invité à plier le genou devant le diable et à l'adorer. Je voudrais un instant, peut-être, méditer cette pensée sur l'enjeu de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Quelles sont les conséquences de l'adoration? Etc. Et puis finalement, à se poser une question ultime, qui est-ce que j'adore? Ou qu'est-ce que j'adore? Parce que voyez-vous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le fasse consciemment ou non, qu'on soit religieux ou non religieux, nous sommes nés pour adorer. Nous avons été créés ainsi et nous adorons continuellement, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Que vous soyez de longue date dans cette église ou que vous soyez la première fois dans une église évangélique, je vous le déclare, vous êtes des adorateurs. Vous avez été câblé pour ça. Vous avez été fabriqué pour adorer. Et nous tous qui sommes sur terre, tous les jours, tout le temps, partout, nous adorons. Voyez-vous, adorer, c'est pas un truc qu'on fait comme on l'a fait il y a un instant. C'est pas un truc, un machin qu'on fait comme ça qui vient avant la prédication. Non, non, adorer, c'est plus quelque chose qu'on est qu'une chose qu'on fait. Mais il y a comme ça des lieux d'adoration. Les arènes sportives sont des lieux d'adoration. Et on dépense des fortunes. On va à l'autre bout du monde pour assister à une finale de Coupe du Monde. Rien de mal à cela, mais quelque part, ça correspond à un besoin de l'être humain d'adorer, de s'exalter, de s'enthousiasmer pour quelque chose. Prenez avec moi le texte d'Apocalypse. Apocalypse 5, versets 8 et 14. Je voudrais qu'un instant, on puisse faire un effort d'imagination. Apocalypse 5, on est dans l'au-delà. On est devant le trône de Dieu. On est dans un paragraphe très symbolique où il y a pas mal de symboles, où les 24 vieillards représentent à la fois les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, c'est-à-dire l'Église de tous les temps. Et puis il y a les anges, et puis il y a des êtres bizarres, les animaux, enfin bref. Il est marqué là, pendant que je vous le lis, que vous puissiez faire un effort d'imagination. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation et de tous les coins de France et de Navarre. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades. Imaginez un instant ça. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Je ne sais pas comment ils ont fait, mais peut-être qu'ils avaient aussi des haut-parleurs et des micros et une scène avec des lumières. Ceci dit, il y a des fois des endroits où on parle d'éclairs qui sont là autour du trône. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Imaginez un peu la scène. Ça ressemble étrangement au Stade de France, un gros groupe de rock arrive et c'est tout plein. Ou aux Eurockéennes, pas trop loin d'ici, où les foules entières s'embrasent, des milliers s'embrasent pour une soirée. Et ils sont en communion les uns avec les autres. Et avec l'artiste qui est devant, mais qui malheureusement dans quelques années disparaîtra aussi vite qu'il est venu. Et si pas tôt, il partira tard, parce que lui aussi n'est qu'un mortel. Mais je voudrais juste un instant qu'on puisse se rendre compte que quelque part, l'être humain a été créé pour adorer, pour s'exalter, pour s'enthousiasmer, et souvent il adore sans le savoir. L'histoire de l'humanité prouve la présence de myriades d'idoles diverses et variées. Aussi loin qu'on puisse reculer dans le temps et analyser les civilisations, on trouve des gens qui prient. Mais ils prient. Chez moi à la maison, j'ai un petit chat qui en a fait 5. Enfin bref, j'en ai pas vu un de ces 5 me faire une prière. Au fond du jardin, j'ai 4 poules. Il y en a pas une qui le dimanche va à la messe ou au culte. Elles restent dans leur jardin, il n'y en a pas une qui prie. Mais l'être humain, où qu'il soit, partout, en tout temps, en tout lieu, il prie. Ou alors il mène des combats, et puis il prie la gloire humaine, et puis il faut inscrire son nom dans l'histoire. On cherche cette gloire que Dieu nous a enlevée le jour où Adam et Ève ont chuté. Nous avons été faits pour adorer. Colossiens 1, verset 16 dit, « Tout a été créé par lui, et surtout pour lui. » Au fond de l'être humain, il y a une espèce d'aimant, mais toujours à nouveau, nous ramène vers ce... On sent qu'il y a un truc qui nous manque et on cherche à le trouver. Et ceux qui ont trouvé Christ ont trouvé la réponse. Et les autres cherchent encore. Alors on adore un peu tout et n'importe quoi. On est prêt à adorer n'importe quoi parce que c'est un besoin inhérent d'adorer quelque chose, d'adorer quelqu'un. Blaise Pascal disait, il y a au fond de nous un vide en forme de Dieu. Et ça fait un bout de temps que je réfléchis que c'est de l'adoration. Ce texte de Jean 4, où Jésus dit « Ce que Dieu cherche sont des adorateurs en esprit, en vérité », ça fait longtemps que j'y réfléchis. Et depuis quelque temps, des pensées me sont venues. Et encore récemment, j'ai croisé des amis qui avaient un livre qui traînait sur la bibliothèque et je l'ai pris. Et ça parlait, et monsieur me disait exactement ce que je disais là. Je trouvais ça intéressant. Mais nous avons besoin, nous avons été créés pour adorer. On retient ça ? Question, c'est quoi l'adoration ? Bonne question ! Voici une réponse simple. Qu'est-ce que adorer ? C'est ma réaction à ce qui, pour moi, a le plus de valeur et le plus d'importance. Je répète ça ? Adorer, c'est tout simplement ma réponse, ma réaction à ce qui, pour moi, a le plus de valeur et le plus d'importance. Autrement dit, c'est la personne, ce sont les amis, c'est le rêve, c'est l'expérience, c'est le hobby, c'est ce quelque chose, c'est ce n'importe quoi qui a le plus de valeur pour moi. C'est ce qui a finalement la première place dans ma vie. C'est ce qui aura ma préférence au-dessus de tout. Je répète ça. L'adoration, c'est ma réponse à ce qui pour moi a le plus d'importance. Ça peut être une personne, un mari, une femme. Ça peut être un job. Ça peut être un diplôme. Ça peut être un projet. Ça peut être la culture, la musique. Ça peut être la peinture. Ça peut être n'importe quoi. C'est ce qui pour moi aura la première place dans ma vie. C'est ce qui, en toute chose, aura ma préférence. Pour les uns, c'est la télévision. Pour les autres, c'est Internet. Pour les autres, c'est encore d'autres choses qui nous sont devenues par contrainte, finalement. On y a goûté une fois, deux fois, et à la fin, on y est accroché. Ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être l'addiction à la pornographie. Ça peut être tellement de choses qui, finalement, occupent ma pensée, occupent mes émotions, occupent mon temps, occupent mon argent, occupent ce que je suis. Alors comment connaître l'objet de mon adoration ou la personne que j'adore ? Nous avons chanté « je t'adore, vraiment ?» Question, vraiment ? Comment connaître l'objet de mon culte ? Très simple, Suivez le sentier de votre emploi du temps. Suivez le sentier de vos affections. Suivez le sentier où vous dépensez toute votre énergie. Suivez le sentier de vos dépenses financières. Suivez le sentier de votre fidélité, votre allégeance à quelque chose. Et au bout du sentier, il y a un trône. Et sous ce trône, il y a un occupant. Et cet occupant, c'est ce que vous, c'est ce que moi, j'adore. Chacun de nous a au fond de soi, dans son cœur, un autel sur lequel il y a un trône. Et sous ce trône, il y a un occupant qui peut varier au fil du temps, mais il est toujours un occupant et qu'un seul. C'est pourquoi le diable a demandé à Jésus, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Qu'un seul adorateur, qu'un seul objet d'adoration. Le diable a dit en substance, Jésus, donne-moi ta préférence. Donne-moi ton cœur. Et tout le reste, je te donne. À ce propos-là, d'ailleurs, cette question a été posée à Abraham dans Genèse 22. Donne-moi ton fils. Tu dis à Abraham, donne-moi ton fils. Il aurait pu dire, mais Seigneur, j'en ai deux. Ton unique, j'en ai deux, Seigneur. Celui que tu aimes, j'aime les deux. Virgule, Isaac. Et c'est la première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible. Genèse 22, verset 5. En fait, Abraham avait été percuté. Il avait compris que ce que Dieu cherchait, c'était pas tant la vie de son fils que la priorité, la première place dans le cœur de son serviteur. Il avait beau être serviteur depuis des années. Le danger nous guette tous, c'est qu'à un moment donné, on est même capable d'adorer l'œuvre que Dieu nous donne de faire. Or, ce que Dieu veut, c'est pas cette salle-là. Ce que Dieu cherche, c'est que nous l'adorions lui et lui seul. Je suis épaté par l'apôtre Paul dans Philippiens 3, versets 7 à 8, où Paul dit une chose absolument extraordinaire. Dans la version, selon Second, elle est un peu, je dirais, pas cachée, mais je vous la laisse afficher et je lis celle de Parole de vie. Écoutez voir. Paul parle à l'église de Philippe. Il écrit un courrier. C'est une église qu'il a beaucoup soutenue. C'est la première église européenne. Une ville de garnison romaine. Et il y a trouvé des gens avec des cœurs ouverts et qui se sont convertis. C'est une belle église. Et Paul a après continué à traverser la Péloponnèse. Il a commencé à établir une église à Éphèse et puis aussi à Corinthe. Et puis ça a continué. J'écoute Paul et il dit la chose suivante au verset 7 et 8. En parlant de ce qu'il avait été, un circoncis, un éduqué, un érudit dans la loi juive, etc. Il dit, mais toutes ces choses, je les ai considérées comme de la boue. J'ai cru gagner beaucoup à ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Et moi, je me suis dit, et si maintenant, moi, j'avais été l'écrivain de cette lettre, qu'est-ce que j'aurais écrit? Peut-être j'aurais écrit ceci. Faire avancer le royaume de Dieu, faire se multiplier les églises, faire se développer les croyants, faire grandir l'église dans tout le bassin méditerranéen, voilà le plus important. Et Paul dit non. Le plus important pour moi, c'est de connaître le Christ. C'est de le connaître lui et lui seul. Parce que tout dépend de là. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc l'important pour chaque croyant, c'est de connaître le Seigneur. C'est finalement de l'adorer. Parce que voyez-vous, l'adoration, ou plutôt selon ce qu'on adore, la direction de notre vie change énormément. Dans 2 Rois 17, verset 15, c'est mon troisième point. On est dans un temps où le rédacteur de ce livre fait un bilan. Osée, le dernier roi d'Israël, a été déporté. Il cherche les raisons pour lesquelles il y a eu une déportation. Et au chapitre 17 et au verset 7, il dit la chose suivante. Ces événements arrivent parce que les Israélites ont péché contre le Seigneur, leur Dieu. Pourtant, c'est lui qui les avait délivrés du pouvoir du Pharaon, le roi d'Égypte, et qui les avait fait sortir de ce pays. Mais ils ont adoré d'autres dieux. Et au verset 15, il est dit, Dieu leur avait donné des lois. Il avait fait alliance avec leurs ancêtres. Il leur avait donné des conseils. Mais les Israélites ont rejeté tout cela. Ils ont suivi des faux dieux qui ne valent rien et ils sont devenus eux-mêmes des gens qui ne valent rien. Une autre version dit, ils ont adoré des dieux inconsistants et ils sont devenus eux-mêmes des gens inconsistants. Psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Ils leur ressemblent tous ceux qui se confient en elle. Voyez-vous, je pense honnêtement qu'on ressemble toujours à ce qu'on adore. Vous avez déjà vu des gens qui adorent une idole musicale ? À la fin, ils s'habillent comme elle. Même coiffure, même habillement, même style, même look. C'est incroyable. On ressemble toujours à ce qu'on adore. Mais selon ce qu'on adore, on lui ressemble. Et les femmes, nous avons fait des choses terribles. Parce que voyez-vous, nous avons tous au fond de nos vies, nos sociétés aussi, ont créé des veaux d'or. Par exemple, le veau d'or du confort. Et pour des raisons de confort, il y a des messieurs, il y a des jeunes gens qui ont obligé et poussé leurs fiancées enceintes à aller avorter. Et on les a rendus meurtrières et on est devenus complices de meurtre, nous aussi. Bien-aimés, adorer le Dieu de la Bible, c'est devenir un homme et une femme digne de ce nom. Ce sont des gens qui marchent debout, qui marchent la tête haute, le cœur léger. Adorer le Dieu de Jésus-Christ, ça élève l'homme dans sa dignité. Adorer le Dieu de Jésus-Christ, ça élève les gens dans leur dignité humaine. Adorer autre chose que Dieu, c'est devenir des gens inconsistants. Nos pays ont adoré la cupidité, l'argent facile, l'argent rapide, et maintenant on paye le prix fort. Parce qu'on a adoré l'argent facile, on était prêt à payer le prix le moins cher, peu importe si à l'autre bout du monde des gens travaillent 70 heures par semaine. On n'en a rien à faire. Mais nous sommes devenus des gens inconsistants. On a fait un retour vers la jungle. Enlever l'évangile, c'est le retour vers la jungle. Les gens sont devenus esclaves de leurs instincts de bas étage. Une forme de bestialité, une dureté de cœur. Parfois, c'est la dépravation qui est avancée. Bien-aimés, cette cupidité qui nous touche de si près tout le monde est la racine de tous les maux de la Bible et elle est omniprésente. J'aimerais nous rappeler, nous ressemblons toujours à ce que nous adorons. Si vous adorez la mode, votre porte-monnaie se videra là-bas et vous lui ressemblerez. Alors ça a l'air très fun et très clean et très beau. Mais ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi il y a une mise en garde contre le danger. Lorsque Israël a déménagé dans le pays Canaan, Dieu leur a dit, surtout n'imitez pas ces peuples. C'est parce qu'ils ont adoré des choses vaines, des idoles que je les ai chassées devant vous. C'est pourquoi ne les imitez pas. Mais Israël, toujours à nouveau, les a imités. Et finalement, ils sont partis en déportation. Le problème de fond, c'est un problème de l'objet de l'adoration. Nous faisons des échanges des fois. Et parfois, c'est très très sournois. Nous pouvons être ici, et moi y compris, je suis en train de dire vous, nous, je m'inclus. Et chanter des cantiques d'adoration absolument fantastiques, vivre la présence de Dieu. Mais au quotidien, nos actes, nos dépenses, le temps que nous employons, nous prouvent que nous adorons autre chose. Le danger, c'est l'échange que nous faisons. Romains chapitre 1, on pourrait lire ça, Romains chapitre 1, verset 18. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création, quand on regarde la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux, qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir. Ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. Ils ont échangé l'objet de l'adoration. À cause de cela, verset 24, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient. Et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. Et cet échange d'objets d'adoration peut se faire aussi vite que de passer le seuil de la porte ici. Et tout le problème, c'est de rester un adorateur. Verset 26. Parce que voyez-vous, selon ce qu'on adore, il y a des conséquences. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. L'homosexualité n'est pas un produit de la société, c'est un jugement de Dieu sur le pays. La Bible dit que la raison profonde, c'est qu'on a échangé l'objet de l'adoration. Au lieu d'adorer le Créateur, on a commencé à adorer la créature. Il y en a qui dépensent un fric fou pour leur corps, pour leur beauté, pour plaire. Tout tourne autour d'eux. C'est le moi, c'est le culte du corps ou le culte de l'hédonisme, le plaisir sous tous les sens. Le plaisir du palais, le plaisir des yeux, le plaisir intellectuel, le plaisir de manger, le plaisir de la chair, etc., etc. Mais ces choses-là ont des conséquences. Et tôt ou tard, on paye le prix. Parce qu'à la fin, il y a toujours une addition à payer. Lisons ensemble le verset 28. Romains 1. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants. Ils sont pleins de jalousie. Ils tuent. Ils se disputent. Ils trompent les autres. Ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens. Ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont sans cœur et sans pitié. Ça décrit à peu près les temps actuels. Le problème de fond n'est pas juste l'abandon d'une bonne morale. Le problème de fond, c'est qu'on n'adore plus Dieu. C'est qu'on a abandonné une adoration profonde de Dieu qui est plus que chanter dimanche matin ensemble « Je t'adore Seigneur », même si c'est tout à fait à sa place et c'est juste et c'est bon et je valide à 1000%. Le problème de fond, notre société a échangé le Dieu, Jésus-Christ, par d'autres divinités. Moi, mon corps, mes loisirs, ne touche pas à mes loisirs, s'il te plaît. Ma carrière, mes gains à tout prix. Il faut absolument avoir du 15% de rendement pour mes actions ou mes obligations. Comment voulez-vous faire un 15% de rendement avec une croissance de 2%? C'est impossible. Alors on le fait quand même. Comment est-ce qu'on le fait? On réduit les effectifs. Vous avez compris que selon ce qu'on adore, ça a des conséquences même sociales. Sanitaire. Oh, ce que Dieu cherche pour nous, ce que Dieu veut pour nous, mon ami, c'est qu'en l'adorant lui, on trouve le bonheur, le vrai bonheur. Dans un texte d'Ésaïe, Dieu plaide avec son peuple et il lui dit « Oh mon peuple, si tu m'écoutais, si tu m'adorais, ton bonheur serait comme un fleuve. » C'est pas beau ça? Ton bonheur serait comme un fleuve. Bonheur financier, bonheur familial, bonheur sociétal, le bonheur tout court quoi. Le but ne laisse pas nous aliéner ou nous rendre malades. Le but, c'est qu'on soit heureux. Problème de fond, c'est qui est-ce qui est sur le trône de mon cœur? Qui est-ce que j'adore? Parce que l'enjeu ultime, c'est notre adoration continuelle. Ce que Dieu veut, c'est que notre vie soit un chant continuel de louange. Mais que votre vie, que ma vie, soit un chant continuel du dimanche au dimanche. Dans les moments de communion avec lui, dans la chambre haute, ou dans la communion ensemble, mais aussi dans la vie de tous les jours, même quand je fais la vaisselle, ou que je roule en voiture, ou que j'ai mon boulot au bureau. Adorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Hébreux 13, versets 15 et 16. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Je vous lis cette version-là. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Mais le verset suivant dit la chose suivante. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Autrement dit, adorer Dieu, c'est pas seulement chanter, c'est aussi chanter, mais c'est aussi concrètement venir au secours des uns, aider le troisième, donner un coup de pouce par-ci, vraiment être dans la bienfaisance et dans la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le risque souvent, c'est qu'on a parmi nous, et même dans notre propre vie, des fois on est ou des Martes ou des Maries. La Marie, elle était vite à genoux devant le Seigneur et elle écoutait le Seigneur parler. Hein, pendant que la Marthe, là, elle travaillait dans les cuisines. Elle faisait la manger, la popote, les rejetis, le fromage, et la tartiflette et... Et à un moment donné, elle dit, mais Seigneur, mais enfin, c'est pas possible. Hein. Non, écoute, moi, je bosse comme une folle et elle est... Rappelons Marthe que d'être assis au pied de Jésus, devant sa Bible, d'être dans sa chambre haute, à le prier seul, c'est aussi adorer Dieu. Savoir s'arrêter dans son activité quotidienne et de prendre du temps avec Dieu, c'est adorer Dieu. Et aux autres qui sont des contemplatifs, qui aiment plutôt le côté un peu, j'aimerais dire, retrousser les manches, prendre un balai, nettoyer l'église, c'est aussi adorer Dieu. Amen. Donner un coup de pouce au frère qui a besoin qu'on lui donne un coup de pouce pour faire son bois à la fin de l'année, c'est aussi adorer Dieu. Donner un billet de 50 euros à l'église ou à telle œuvre parce qu'on en a besoin, c'est aussi adorer Dieu. J'adore Dieu là aussi. Et du coup, j'adore Dieu pas seulement le dimanche matin à l'église, tout au long de la semaine, je l'adore. Tout le temps et continuellement, je l'adore. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est ça l'adoration. Les deux vont de pair, à la fois le contemplatif et l'actif. Les deux se sont liés et vont de pair. J'aimerais conclure. Nous avons été programmés pour être des adorateurs. On peut dire ça ? Nous avons été ainsi faits. Programmés pour être des adorateurs. Et nous le faisons constamment, en tout lieu, en tout instant, consciemment ou non. Ce qui, pour nous, a le plus de valeur, c'est ce que nous adorons. Je voudrais qu'on ait un instant le courage de faire un examen de conscience. Et se poser la question, qui est-ce que j'adore ou qu'est-ce que j'adore ? Nous avons été programmés pour être des adorateurs. Dites-moi où vous passez. Dis-moi, Claude, où passes-tu ton temps, ton énergie, ton argent, ta sueur, et je te dirai ce que tu adores réellement, ce qui est assis sur le trône de ton cœur. Et ce qui est assis dessus va déterminer tes actions et ton style de vie et finalement ton destin. On ressemble toujours à ce qu'on adore. Le diable cherche ton adoration de gré en te tentant. Si tu m'adores, tu auras tout ça. Ou de force. Parce qu'à la fin des temps, dans Apocalypse chapitre 13, verset 15, lorsque le diable aura mis en place un gouvernement mondial et qu'il y aura la bête et qu'il y aura des marques sur le front et sur la main, tous ceux qui ne l'adoreront pas seront mis à mort. Et il lui fut donné l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Autrement dit, ou tu adores ou on te tue. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, il veut susciter en nous une adoration qui découle de la croix, parce qu'à la croix il nous a tellement aimés qu'il nous a arrachés de la vaine manière de vivre, il nous a arrachés de la mort éternelle, et maintenant nous avons été plantés dans son jardin, nous sommes devenus des térébintes de la justice, et maintenant nous sommes invités à l'adorer par amour, adorer celui qui est le fidèle et le véritable, adorer celui qui est l'humble par excellence, à celui qui est humble, qui me lave les pieds. Le diable, mon ami, ne te lavera jamais les pieds. Je voudrais finir par un texte dans Matthieu 10, versets 37 et 39. Adorer Dieu, c'est le préférer à toute autre chose. Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son travail, sa carrière plus que moi. Celui qui aime son corps plus que moi. Celui qui aime sa télévision, qui aime l'internet plus que moi. N'est pas digne de moi. On pourrait continuer. Celui qui aime son fils et sa fille, celui qui aime son mari ou sa femme, j'ai vu des femmes adorer leur mari et devenir malheureusement des petits toutous. L'inverse étant vrai aussi, j'ai vu des maris adorer leur femme. C'est bien d'aimer vos femmes, mes frères. Aimez-les abondamment. Mais que Dieu garde dans vos cœurs la première place. Que Dieu garde la première place. Et alors votre femme prendra la bonne place, la seconde place. Elle a aussi une place à occuper. Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. Autrement dit, celui qui s'aime lui-même plus qu'il ne m'aime moi n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Et avec elle, il y a la présence de Dieu. Il y a l'avenir avec Dieu. Il y a la paix de Dieu dans nos vies. Et le soutien de Dieu et sa force. Alors je te pose une simple question. Qu'est-ce que tu adores vraiment? Qui adores-tu vraiment? Courbons nos fronts un instant.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Il est 5h20 passé et c'est toujours Phare FM qui vous accompagne dans la nuit autrement. On est encore ensemble un peu moins de 20 minutes en espérant que ça va. Je vous souhaite un beau réveil et une excellente journée, un très très bon vendredi. On poursuit notre programme en musique, Sounds of Sunday et la chanson Running with Angels.
I'm running with angels. Got the devil below me, 'cause I'm running with angels, yeah. Yeah, the ocean's a highway when you know who splits the sea. The ocean's a highway when you know who splits the sea. The ocean's a highway.
vie la vraie. Avec Manolo, jamais solo. Viens retrouver la paix.
Sois incertain, tu vas comprendre mon sentiment. Tu ne pourras jamais voir ce monde-là autrement. Si t'avais vu ce qu'est la vie, quand c'est Jésus qui l'a dirigé. Depuis le départ, il est là, même quand on me refoulait. Je fais plus le grand écart, papa, je suis entré à la zone.
Tendri et la chanson Ma Vida sur Phare FM, pratiquement 5h moins 10 et notre programme se poursuit. On va retrouver tout à l'heure notre prochain rendez-vous Hommes et Femmes, Mode d'emploi, où sera question des addictions sexuelles. Et tout de suite, Pierre Garnier avec la chanson Ce qui me va. Moi, ça me va bien d'être avec vous. D'ailleurs, toutes les nuits, du lundi au dimanche, de minuit à 5h, du lundi au vendredi et de minuit à 7h le samedi dimanche. Je vous souhaite encore un beau réveil et une excellente journée. Merci de rester avec Phare FM. À tout à l'heure.
Un peu de moi, juste là, comme si j'avais attendu ça toute ma vie, sans le dire. Sans jamais oser rêver de ce qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi moi, mais je suis là. Et je ne veux plus jamais quitter cet endroit. Un peu de moi, un peu ma voix. Un peu de vous qui m'écoutez le soir. Essayer, tant que dans le miroir je me reconnais, j'en ferai des erreurs et des déçus, ça je le sais. On voulait pas d'être moi, je cherche encore à savoir ce qui me va, ce qui me va. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir. M'écouter le soir. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir.
Hommes et femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Nous parlons aujourd'hui des addictions sexuelles.
Aujourd'hui, sujet tabou, la sexualité et la pornographie.
Il est important de dire que exposition ne veut pas dire addiction. On peut être exposé, mais pas addict. Addict, c'est un comportement qui nous domine, oui. Où notre volonté a été détruite par le phénomène addictif. Et en fait, cela est plus fort que nous. Et c'est ce que Rachel est en train de dire, c'est que plus jeune est l'exposition à la pornographie, plus difficile sera la possibilité d'en sortir. Mais évidemment, avec l'aide de notre Dieu et le travail que l'on peut faire avec son aide, eh bien, on peut évidemment réécrire l'empreinte et sortir de cela.
parce que tu parles d'addiction, mais la pornographie emmène cette addiction très rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la pornographie qui t'emmène une addiction?
Le fait que la pornographie va déclencher le cocktail au niveau de la sexualité, ouais. Ça va, c'est ça qui va créer l'addiction, en fait.
En fait, parce que c'est l'addiction se passe quand il y a orgasme, quand il y a stimuli sexuel.
Devant
le cerveau relâche un cocktail d'hormones extrêmement fort, qui est en fait comme un flash de drogue, presque, mais naturel dans notre cerveau. Et c'est ça qui va créer le phénomène addictif. Parce qu'à chaque fois, le cerveau va rechercher cela. Il va falloir avancer plus loin dans la pornographie pour avoir à nouveau ce phénomène. Et puis après, ça va devenir un cycle qui ne s'arrête plus.
C'est tellement chimiquement fort que quand les filles sont exposées à la pornographie petite aussi, ça va déclencher la puberté avant l'âge normal. Donc on a vu une chute de l'âge de la puberté chez les filles à cause de ce cocktail chimique. Et en fait, c'est une illusion de croire que, supposons un jeune homme combat cela pendant son temps de célibat, et c'est une illusion de croire que le mariage va solutionner. Parce qu'en fait, c'est pas une question de la beauté de la femme ou de à quel point ils vont développer une relation sexuelle épanouie, puisque l'empreinte s'est faite au mauvais endroit. Donc on se retrouve avec des jeunes hommes qui se retrouvent mariés et qui n'arrivent pas à être détachés de cela. Et ça va créer chez la femme des grosses souffrances, parce que si elle s'en rend compte avant qu'il ne lui ait dit, via va se rajouter au fait que la pornographie va créer une sensation d'adultère, c'est comme un adultère.
C'est un vrai adultère.
Voilà. Chez la femme, en plus, elle va se sentir trahie. Si le mari n'est pas venu dire, écoute, vraiment, il faut que je t'en parle, j'ai un problème avec la pornographie.
Mais c'est là où tu as vraiment besoin de parler du fonctionnement de la pornographie, que ça n'a rien à voir avec belle, pas belle,
exactement.
Attirante, pas attirante,
rien à voir avec
bonne
elle.
Sexualité, pas bonne sexualité, parce que c'est lié à ton empreinte initiale.
Absolument.
Donc il faut vraiment, au lieu de... Moi, je sais que demain, ça arriverait dans mon couple, c'est sûr que ça emmènerait un dégoût dans mon cœur et presque un rejet, tu vois. Mais de comprendre qu'au contraire, on a besoin d'être aux côtés de notre mari dans ces moments-là.
C'est ça. Faut pas se tromper d'ennemi.
Voilà, c'est ça.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Shadows cover me when I'm walking through the valley. I won't fear my enemies, 'cause everywhere I go you surround me, and every step you go before, and even through the pain you remind me that every victory is yours. I know I'll be safe, I know I'll step you go before, and even through the pain you remind me.
I know I'll be safe with you.
Karen Feller avec Chris Cron, safe sur Phare FM. Deux minutes, ce sera l'heure pour moi de vous laisser et ce sera en compagnie de Bonjour Chez Vous. Et puis à 5h30, c'est Innocent qui va revenir dans Cocorico et pour ma part, je reviens cette nuit à minuit. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, un très très bon vendredi et je vous laisse avec Ali et la chanson Aimer. À très bientôt sur Phare FM.
Encore une fois. Mes pensées me font broyer du noir. Encore une fois, mon cœur s'adonne à ne plus y croire. Mes yeux revoient chaque faux pas et chaque défaite. Mais quand je te vois, je sais que tu oublies mes échecs. Pas que j'abandonne, mais je lâche prise. La honte n'aura plus son emprise. Je suis aimée, il me rachetait tel que j'étais. Et pardonner, pourquoi m'inquiéter de ce que j'ai. Pas que j'abandonne, mais je lâche prise. La honte n'aura plus son nom. Tel que j'ai.